Bah, je sais que parfois l'ambiance peut changer, les coups s'échangent et tu passes du calme au danger.
Échoué. Le plan a échoué.
Tu peux passer du blanc au noir, du bien.
On a tous un peu peur de l'échec. Et si c'est ton cas, cette émission est faite pour toi. Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans The Failcast. Donc dans The Failcast, on parle d'échecs et aujourd'hui j'ai l'opportunité et l'honneur d'accueillir Arash Derembash qui se prénomme lui-même recordman du redoublement en France et vous allez découvrir à travers son parcours. Et aujourd'hui il est avocat, militant politique et conseiller municipal à Courbevoie. Donc il a parcouru un long chemin pour en arriver là. Et d'ailleurs, j'ai une question principale, parce que c'est autour de ça que c'est un peu que a gravité l'échec dans ton parcours. Pourquoi as-tu voulu devenir avocat ?
D'abord, bonjour et merci pour l'invitation. J'ai voulu devenir avocat parce que je crois beaucoup au fait d'aider les autres. Je pense que c'est le plus beau métier du monde, car les droits de la défense sont des droits qui, pour moi, sont de l'ordre de liberté publique, libertés individuelles. Et c'est comme ça que nous en tout cas, faisons l'idée de ce que ça veut dire que les droits de la vie dans une société démocratique et civilisée.
Ok, merci. Et j'ai soulevé un problème dans ton parcours qui est commun à beaucoup de jeunes, notamment dans les banlieues, et même moi je l'ai connu, c'est le problème un peu de la dissuasion de ces profs qui vont nous dire tu pourrais pas aller en BEP ou ce genre de choses quand on a de grandes ambitions. Et moi ma question c'est comment tu as surmonté ça et est-ce qu'il n'y a pas un problème dans l'éducation ?
Alors dans le livre que j'ai publié, Tomber 9 fois sur relevé 10, publié aux éditions de Cherche Midi, je parle en fait plusieurs fois de ces problèmes que j'ai eu avec des professeurs, à qui je rends hommage d'ailleurs, mais le problème c'est que l'éducation nationale n'a pas le temps de traiter les problèmes de chaque élève de façon personnalisée. C'est une machine, c'est un mastodonte, c'est un mammouth. Et donc, ils ont des cases, ils ont des quotas, ils ont X nombre d'élèves à envoyer en général, d'autres en technique, d'autres en BEP. Et il y a un mensonge dans cette affaire. Parce que depuis tout petit, l'enfant qui écrit sur sa feuille ce qu'il a envie de faire, parce qu'on lui propose, on lui dit « qu'est-ce que vous voulez faire ? » Vous remplissez la feuille blanche. Et l'élève qui dit « voilà, j'ai envie de devenir avocat », l'autre qui dit « j'ai envie de devenir médecin, policier » et d'autres, on ne prend pas en compte en fait ces feuilles. Ces feuilles qui sont remplies en CP, CE1, CE2, collège. Et au final, on n'apporte pas de réponse et on n'apporte pas de solution à ces élèves-là. Et donc, du coup, l'élève, ne se voyant pas apporter de réponse concrète sur ses rêves, on lui dit « t'as pas de bonnes notes » ou « t'as pas suffisamment de bonnes notes, donc on va te mettre dans telle case ». Et l'élève qui écoute en fait un professeur lui dire ça, perd confiance. Et pourquoi ? Parce que le professeur, l'instituteur, a une légitimité incroyable. C'est-à-dire qu'un élève voit plus le professeur que ses propres parents. Donc du coup, il y a une relation, la relation entre l'élève et le professeur est une relation extrêmement particulière, étroite, de confiance, de respect, d'admiration. Et la personne qu'on a admirée, la personne qu'on respecte, qui vous dévalorise, qui vous dit « t'as pas les compétences, t'as pas les capacités ou pense à faire autre chose », là, ça vous porte vraiment atteinte psychologiquement.
Oui, mais justement, je me suis demandé en lisant votre livre, justement, comment vous avez fait pour tenir, parce que ça, c'est pas arrivé qu'une seule fois. Et d'ailleurs, c'est arrivé très jeune, à un âge où on est en train de se construire. Moi, je me suis demandé quand même pourquoi, à un moment, il a pas pensé à se réorienter, ce qui aurait été dommage d'ailleurs, mais... Franchement, en voyant cette histoire, je me suis demandé ça.
Non, c'est une bonne question. Je voulais faire avocat. Et dans une période en plus que vous ne soulignez pas, c'est qu'il n'y avait pas de Google à l'époque. Internet n'arrive qu'en 1996. Là, vous me parlez des périodes où je suis en 5e, en 3e. Donc c'est bien avant l'apparition d'Internet. J'ai voulu devenir avocat. Je me suis renseigné. J'ai dit d'abord à mon professeur principal. Je lui ai dit, voilà, laissez-moi le temps. Parce qu'il voulait me faire signer la feuille pour aller en BEP. Et je lui ai dit, non mais vous me laissez le temps de la soirée, je vais me renseigner et je reviens vers vous demain. Et quand j'ai appris en fait qu'on ne pouvait pas devenir avocat en passant par le BEP, BEP que je respecte, hein, c'est un diplôme que je respecte tout à fait, mais ce n'était pas vers là où je voulais me diriger moi, m'orienter. Donc du coup je lui ai dit non, je ne veux pas. Il a insisté, donc du coup je lui ai déchiré la feuille. Et ils m'ont dit, tu ne peux pas rester dans ce collège, dans ce lycée. Donc du coup je me suis orienté vers un autre lycée, voilà tout simplement. Et je voulais parce que j'étais focus sur mon objectif, devenir avocat.
Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, il n'y avait pas de plan B Et c'est ça aussi qui vous a permis de rester, bah, justement, de ne pas avoir anticipé autre chose et d'être resté focalisé sur ça. Et du coup, je trouve ça bien parce que c'est un bel exemple de persévérance. Et du coup, c'était quoi le plan B ?
Non, il y avait un plan B pour avoir mon objectif.
Ah oui, oui. Oui. Mais pas un autre. Non, mais... Moi, je parlais d'un autre métier.
Non, c'est très important de le dire. Quelqu'un qui veut obtenir, qui veut atteindre son objectif, c'est pas parce qu'il n'y va pas par un chemin qu'il ne peut pas y aller par d'autres chemins. On dit toujours en fait que lorsqu'un chemin se bloque, c'est parce qu'il ne faut pas insister, ça sert à rien de s'entêter. Mais pas du tout. C'est pas parce que vous ne pouvez pas rentrer par la porte qu'il ne faut pas essayer de rentrer par la fenêtre de derrière, par la cheminée, par la porte de secours ou la porte de sortie. Ouais. Il y a toujours en fait un escalier de secours pour atteindre son objectif. Moi, je suis passé par la thèse de droit. J'ai soutenu une thèse de droit. D'autres peuvent faire autre chose. Sur chaque objectif qu'on souhaite atteindre, il y a une possibilité d'atteindre cet objectif par une multitude de chemins différents.
Ouais. Bah, oui, j'ai vu en lisant votre livre que vous avez trouvé des passerelles, etc., d'autres moyens d'y arriver. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais plan B, je parlais vraiment de réorientation. Non, ouais. Et du coup, bah justement, je trouvais ça bien, ça vous a permis d'être un peu créatif pour arriver à votre objectif. Et aussi, je sais que vous avez commencé les études vers l'âge de 19 ans et que vous avez été diplômé officiellement pour être avocat 19 ans après. Et du coup, je me demandais comment vous avez fait pour tenir aussi longtemps et est-ce que vous n'avez pas eu l'impression de perdre votre temps ?
Non, je ne perdais pas mon temps parce que ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'à chaque fois que je montais en fait d'une année, d'un stade, d'un niveau... C'est comme si dans une montagne, vous montez l'Everest et vous grimpez petit à petit. Je me disais toujours, c'est bon, une année de prix. C'est une année de moins en fait à faire. Une année de moins à travailler. Et il y avait deux objectifs en réalité. C'était que plus je montais, plus j'étais sûr qu'on n'allait pas me réorienter vers autre chose. Parce que je connaissais en fait les différents niveaux où on pouvait se faire réorienter. Par exemple, je ne sais pas moi, en troisième. Par exemple en seconde, en première, en terminale. Mais arrivé au niveau du DAG, donc la première année et le deuxième niveau de L1, L2, on ne pouvait plus nous faire marche arrière. Et encore mieux quand on arrivait à la licence. Pour moi, le vrai barrage, c'était la licence, passer à la licence. Parce que j'avais redoublé 3 fois le DAG. J'ai fait 4 années de L1 et L2 en tout, hein, 4 années. Et je savais qu'en passant ce barrage-là, j'allais arriver. J'ai ensuite redoublé 2 fois la licence. Mais à la limite, c'est pas grave, parce que la licence, j'étais sûr qu'arrivé au niveau de la licence, j'étais persuadé que d'ailleurs, le concours d'avocat serait dans 2 ans. Au niveau de la M1, puis de la M2, voilà. Donc systématiquement, à chaque fois, je voyais l'horizon, en tout cas, j'essayais de m'y rapprocher. Parce que j'étais focus, encore une fois, comme un pitbull sur mon objectif. Et je dis à ceux qui vous écoutent, vous avez un objectif, ne le lâchez pas, n'écoutez personne. Soyez comme des chiens, comme des pitbulls. Vous avez votre objectif. Mettez-vous d'abord avec des gens qui réussissent ou qui vous font monter. Pas avec les gens qui vous découragent ou qui essaient de discréditer vos rêves. Le rêve, il doit devenir un objectif. Et vous vous donnez les moyens d'y arriver. Toujours dans les valeurs, les principes, toujours en étant honnête, mais en étant persévérant et obstiné. Allez droit au but. Voilà.
Ouais, non, mais c'est un bel exemple d'optimiste et de persévérance aussi. Du coup, c'est ça que je trouvais intéressant. Et je me demandais quelle était votre sensation quand vous êtes arrivé en école de formation des avocats. Vous étiez si près du but. Et dans un moment du livre, vous expliquez qu'il y a, bah, y a un espèce de moment où on vous dit qui est admis ou pas. Et là encore, vous échouez et vous dites de ces 10 récalcitrants, je suis si près. Comment vous vous sentiez à ce moment ?
Ah, j'étais dégoûté. Parce que quand vous rentrez en fait à l'école d'avocat, tout le monde vous dit il y a 2000 élèves, il y a un taux de pourcentage à 99,9% de réussite. Donc vous dites, c'est bon, je peux y aller tranquille. Mais en fait, sur le 2000, il y a des rattrapages. Il y en a 1900 qui sont acceptés. Moi, il n'y a pas mon nom dedans. Donc il y en a 100 qui sont renvoyés en rattrapage. Et le rattrapage, c'est en 5 semaines. Et dans les 100, je fais partie. Et dans les 100, il y en a 70 qui n'étaient pas venus. Donc eux, c'est normal qu'ils soient renvoyés en rattrapage puisqu'ils n'étaient pas venus. Ils avaient raté des examens. Donc ils avaient eu des notes éliminatoires 0. Mais bon, ils allaient les rattraper en rattrapage. Sur les donc 70, on a compris. Les 30, sur les 30, il y en a 20 qui étaient là parce qu'ils avaient fait des passerelles. C'est-à-dire c'était des docteurs en Côte d'Ivoire, en Indonésie ou je ne sais où. Ils ne parlaient pas très bien français. Donc qu'ils soient en rattrapage, ce n'était pas non plus incroyable. Donc il en est resté 10. Et les 10, c'est vraiment les 10 qui ont bossé et qui ont été mauvais, quoi. Et moi, je faisais partie de ces 10 et je me suis dit, jusqu'au bout du tunnel, je serai un des cancres, simplement. Et au final, je l'ai eu. Mais au final, on s'en fout, parce que la robe d'avocat, elle met tout le monde sur le même pied d'égalité. Et puis, c'est le procès qui, ensuite, derrière, me fait croire que je suis bon ou moins bon qu'un autre avocat. Voilà, tout simplement, aujourd'hui.
Ouais, parce que je me suis dit, ça doit être quand même un coup au moral. Comme quand au brevet, on dit tout le monde là, et qu'on arrive et qu'on ne se voit pas. Je me dis, mais pour moi, c'est quand même une force mentale de devoir surmonter ça. Et surtout, je pense qu'il faut aussi avoir confiance en soi pour surmonter ça. Et je me demandais, est-ce qu'à force, de redoubler, vous anticipiez à chaque année? Parce que je sais que quand je lisais le livre, vous disiez, ah, là, par exemple, c'est une année où je n'ai pas dû à retaper. À certaines fois, vous disiez ça. Donc, est-ce que pour vous, c'était limite normal de retaper à chaque fois, etc.
En réalité, j'avais intégré le fait que j'allais redoubler. Et je me suis dit en combien d'années j'allais redoubler. C'est ça le plus important. C'est que je me suis dit combien d'années j'allais mettre pour faire cette année-là. Et c'est vrai que l'année où je me disais que j'allais pas redoubler, en réalité, c'est pas parce que j'allais pas redoubler ou redoubler. C'est parce que je savais que on pouvait signer à la place qu'on pouvait signer tout simplement d'abord. Mais j'ai fait le lapsus, signer à la place de ses parents, parce qu'évidemment, je disais pas à mes parents que j'allais redoubler. Je leur cachais mes sales notes. Mes parents d'ailleurs ont découvert que j'avais signé à leur place, mais 20 ans plus tard, quand ils ont lu le livre. C'est ça qui est l'anecdote assez drôle. En réalité, tout ça n'est pas très drôle, parce que moi, ça m'a fait beaucoup souffrir. J'étais triste, j'étais un enfant joyeux, mais triste dans mes études. Et en même temps, j'étais obnubilé par mon objectif. Et c'est ce que je veux dire vraiment aux jeunes qui nous écoutent là, à travers votre micro.
Sachez que parfois l'ambiance peut changer, les coups s'échangent et tu passes du calme au danger.
J'espère que vous avez aimé cet entretien et que vous avez maintenant une vision plus positive de l'échec. Et surtout, que le parcours d'arrache vous aura aidé à relativiser sur les échecs auxquels vous pouvez être confronté dans votre vie. Mais comme je n'ai pas voulu terminer l'épisode comme ça, j'ai choisi de vous partager certains extraits et de vous donner des clés de réflexion pour vous développer. Donc, il y a d'abord ce passage. L'échec est un processus. L'échec n'est qu'un passage, une étape vers l'objectif. Je trouve ça intéressant parce que Arash est quelqu'un qui a beaucoup échoué, comme vous l'avez compris, et qui a eu son diplôme d'avocat. Donc, il a atteint son objectif 19 ans après le début des études. Mais malgré ça, il montre qu'il a quand même développé beaucoup, beaucoup de compétences. Donc, ça montre qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça, parce que dans tous les cas, on apprend. Et c'est pour ça qu'il dit après, « Mais ceux qui ratent sont aussi riches d'une expérience qui leur servira. » Dans une autre citation, il montre aussi que lutter contre l'échec, c'est une manière de nous faire passer à côté de nos rêves, ce que je trouve assez vrai et intéressant. C'est pour ça qu'il dit « Lutter contre l'échec, ou plutôt contre cette culture de la honte de l'échec qui empêche tant de personnes de se réaliser. » Et je trouve que c'est très très vrai, parce que certaines personnes ont tendance à ne pas tenter par peur d'échouer, mais tenter des choses vraiment qui les animent réellement. Et je pense que beaucoup de personnes passent à côté de leur vocation à cause de ça, et c'est bien dommage. C'est pour ça qu'il le dit dans son livre, parce que lui, il aurait pu justement passer à côté de son destin d'avocat absolument incroyable, vu le nombre d'échecs auxquels il a fait face. Pas arrêté par peur de rater le barreau ou de rater un quelconque examen. Et je trouve que ouais, c'est la peur de l'échec qui nous empêche de vivre nos rêves. Et c'est intéressant de le voir dans son livre. Donc voilà, j'espère que désormais, vous n'aurez plus autant peur d'échouer, et que vous avez apprécié écouter cet entretien. Si vous voulez vous procurer le livre d'Arash, il s'intitule « Tomber 9 fois sur le V10, échec scolaire, ne jamais lâcher ». Merci beaucoup pour cette écoute, et à très vite pour un nouvel épisode.
La soirée se passe, ils jouent leur avenir à deux. En deux minutes, hop, ça devient la guerre de Troie. Ils étaient 4 ou 5 sous l'emprise du 666 et de la 8, oui, surtout de la 8-6. Cette fois-ci, stop, ce jeune homme voulait du 9. Se marie
marié avec sa meuf, bref, avoir 10 enfants. Il en a marre des coups avec ses zincs, c'est simple. Mais une chose qui est sûre, c'est pas passer 5 sur 5.